Voici les deux textes liturgiques pour le septième dimanche après la Pentecôte. Le texte de l'épître est de saint Paul aux Romains. Mes frères, je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair, comme vous avez livré vos membres à l'esprit, au service de l'impureté, de l'iniquité, de même livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir des saints. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit avez-vous donc tiré alors de choses dont maintenant vous rougissez? Quelle raison pour fin la mort? Mais maintenant, franchis du péché, devenez serviteurs de Dieu. Le fruit que vous en tirez est votre sanctification, à la fin sera la vie éternelle, car la mort est le solde, la solde du péché. Mais la vie éternelle est un don de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Se lève. Philippe, allez là-bas, parce que là, vous allez être juste devant la caméra. Non, mais mettez-vous là-bas. Merci. L'évangile est tiré de Saint Matthieu chapitre 7. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples: Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou de chardon des figues? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par conséquent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit: Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là entrera dans le royaume des cieux. Veuillez vous asseoir. Bon, je vous rappelle, j'ai encore deux, trois places libres pour la dernière retraite de l'année du 18 octobre au 23 octobre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui m'écoutent sur Internet, pensez à me contacter le plus vite possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais continuer un petit peu à vous parler de ce magnifique sacrement du sacerdoce, puisque c'est vraiment la période liturgique de l'année pour le faire. Les pères de l'Église avaient trois expressions très belles quand ils parlaient du prêtre. Il y a le prêtre et le religieux de Dieu, le père des âmes et le transparent du Christ. Trois expressions très belles que je voudrais un petit peu vous commenter. Ensuite, je prendrai d'autres expressions tirées cette fois-ci de Saint Pédis, qui disait que mes prêtres soient un lion, des lions, des agneaux, des anges. Commençons par les expressions des pères. Les pères expliquaient d'abord que le prêtre est le, disait-il, le père des âmes. Les relations entre prêtre et fidèle, c'est vraiment un peu la relation entre un père de famille et ses enfants. Le père est une autorité, évidemment spirituelle seulement, sur ses fidèles. Et lorsqu'un père a autorité sur ses enfants, il doit exercer surtout trois choses importantes. Il doit exercer la douceur, la force et les convictions. Il faut les trois. La douceur sans la force, c'est de la faiblesse. La force sans la douceur, c'est de la cruauté. Et on dit que la douceur est à la charité, c'est que la force est à l'espérance, et les convictions à la vertu de foi. Donc il faut les trois choses, justement, pour que les enfants dont le père a la charge puissent progresser, monter vers le bon Dieu, parce que c'est le rôle du père de famille. Père de famille, les parents en général, ont comme objet, comme but, d'amener les enfants au ciel. C'est pour ça que vous êtes mariés. On est mariés pour les gens qui sont mariés. Quand les enfants, leur rôle, c'est de monter les enfants au ciel, augmenter le nombre des élus. Et donc, le prêtre doit avoir cette douceur, cette force et en même temps ces convictions qui sont absolument fondamentales pour justement transmettre et la foi, l'espérance et la charité. Le rôle du prêtre, c'est un rôle de transmission. Monseigneur Lafaire a une belle expression, il disait, c'est comme un facteur qui a reçu une lettre. lui qui a écrit la lettre. Il lit la lettre, il a transmis au suivant. Mais c'est la même chose pour les prêtres, c'est la même chose pour les parents. Le prêtre doit transmettre le magistère, le ministère, le gouvernement, qui ne viennent pas de lui. Ce n'est pas lui qui a inventé toutes ces choses. Le prêtre, son rôle, c'est de transmettre ce qu'il a reçu du bon Dieu, et en tant que prêtre, de transmettre avec la douceur, avec la force, avec les convictions. C'est très facile de faire une équivalence comparée avec l'autorité des parents. Imaginez un père qui se prétexte, ou une mère, ou une maman qui se prétexte qu'elle aime ses enfants, va leur laisser tout passer. Est-ce que c'est de la charité? Bien sûr que non. Une maman qui constate, c'est un exemple que je donne souvent, une maman qui constate que son petit vole dans son portefeuille, ne doit surtout pas laisser passer. Elle va pardonner à condition que l'enfant arrête. Imaginez un adolescent qui a décidé de faire des grosses bêtises, et qui en parle à son père, ben le père, même s'il aime son enfant fortement, eh bien il ne va pas laisser son enfant faire n'importe quoi comme bêtise. Il va utiliser son autorité justement pour l'aider à monter vers le ciel. Un exemple que je peux donner, parce que c'est un exemple qui est malheureusement extrêmement fréquent et bien pénible dans beaucoup de familles. Imaginez, vous avez un jeune adulte à la maison, ou un adulte dont vous avez encore la charge, qui a une vingtaine d'années, et votre adulte décide de se mettre en ménage avec une jeune fille, sans se marier, ou à voler la pousse du voisin pour se mettre en concubinage, pour se mettre en situation d'adultère. Mais si le père qui a autorité sur son enfant aime son fils, est-ce qu'il va accepter une fausse union de ce genre? Son autorité, justement, parce qu'il a autorité, il va falloir absolument qu'il fasse tout ce qu'il peut pour justement sortir son fils du péché. C'est ça la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est aimer Dieu et aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? La charité, ça veut dire aimer le prochain pour aider le prochain à monter vers le bon Dieu. Sinon, ce n'est pas de la charité. Si au contraire, vous cherchez à maintenir les enfants dont vous avez la charge dans le péché, ce n'est plus de la charité. C'est de la faiblesse et c'est aussi de la cruauté à l'égard des âmes. Deuxième expression qu'on trouve chez les pères, est aussi très belle. Il disait que le prêtre est le religieux de Dieu. L'homme de la prière officielle de l'Église. On entend souvent ce genre de réflexion, ça m'est souvent arrivé, même parfois des gens de la tradition qui nous disent, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous faites toute la journée comme prêtre? Vous n'avez rien à faire, le prêtre n'a rien à faire. Un petit sermon préparé le dimanche, ça prend quelques minutes pour préparer tout ça, vous êtes payé pour rien faire. Je réponds d'abord, on n'est pas payé, et là, on n'a pas de salaire. Et ensuite, le prêtre est justement le religieux de Dieu. Il y a toute une série d'activités à faire, les gens ne se rendent absolument pas compte de la première fonction du prêtre. D'abord, il y a le bréviaire, ça prend une heure et demie. Après, la sainte messe, 35-40 minutes plus l'action de grâce, ça fait encore une heure, ça fait déjà 2h30 tout ça. Après, il y a sa méditation, Mgr Lefebvre conseillait beaucoup l'heure de méditation pour tous les prêtres, ça fait 3h30. Puis le rosaire, encore une heure, ça fait 4h30. Puis l'écriture sainte, et puis après l'écriture sainte et la lecture spirituelle, ça va encore une heure, ça fait déjà 5h30 tout ça. Vous rajoutez préparation de serment, préparation de conférence, je suis heureusement qu'on a 24 heures dans nos journées. Donc le prêtre, il faut bien comprendre ça, le prêtre est le religieux de Dieu. C'est celui qui prie au nom du Christ, qui prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de l'Église. Donc le prêtre, si vous voulez, est comme une espèce de canal qui va transmettre les grâces qui viennent de Dieu par l'Église aux gens. Il y a quelques intermédiaires. Le prêtre va utiliser l'Église, les sacrements de l'Église, pour transmettre les grâces qui vont passer par le prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui invente ces grâces. Enfin, troisième expression des prêtres, des pères de l'Église qui est très belle. Il faut bien la comprendre. Il disait le prêtre est le transparent du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Transparent du Christ, ça veut dire que lorsqu'on voit un prêtre, il faut voir Dieu qui est derrière le prêtre. Rappelez-vous ce magnifique exemple, j'ai trouvé dans la vie du Saint-Curé d'Ars, c'est dans Monseigneur Trochu, cet Anglais qui était venu, un protestant, qui est venu visiter Saint-Curé d'Ars, il a entendu parler de lui depuis l'Angleterre. Donc à son époque, donc au 19e siècle, il va voir le Saint-Curé d'Ars. Puis il passe quelques jours à Ars, il revient chez lui, ses amis protestants lui demandent alors qu'il a vu quoi. Il a répondu cette phrase magnifique, il a dit, j'ai cherché un homme et j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Transparent du Christ, c'est ça. Plus les fidèles sont capables de voir le bon Dieu dans un prêtre, et moins ils vont voir l'homme, et plus ils voient l'homme dans le prêtre, moins ils vont voir le bon Dieu. Donc on peut comparer, si vous voulez, une comparaison qu'on peut prendre, on peut comparer le prêtre à un miroir. Et donc justement, le prêtre doit avoir cette vie de prière personnelle pour que les fidèles puissent voir le bon Dieu derrière ce qu'il fait. Donc j'espère que vous ne voyez pas trop le bonhomme derrière la belle affiche et beaucoup plus le bon Dieu. Parce que c'est le but du sacerdoce. Dans ces trois belles expressions, donc le prêtre est le religieux de Dieu, le prêtre est le transparent du Christ, et le prêtre est le père des âmes. Voilà pourquoi le bon Dieu nous a donné le sacerdoce. Certes, strictement parlant, le sacerdoce, ce n'est pas le sacrement le plus important. Le sacrement le plus important, c'est la Sainte Eucharistie. Puisque la Sainte Eucharistie contient non seulement la grâce, mais l'auteur de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais dans la pratique, la Sainte Eucharistie vient par la messe. Et la messe vient par le prêtre. Donc pas de prêtre, pas de messe, pas de Sainte Eucharistie. Donc dans la pratique, je dis bien dans la pratique, même si spéculativement parlant, le Saint-Sacrement est le sacrement le plus important, dans la pratique, c'est le sacerdoce qui est le plus important à cause de cela. Le Saint-Pie X, le très grand pape, qui est mort donc, juste avant la Première Guerre mondiale, il est mort en août 1914, Saint-Pie X, lui, avait une autre expression qui est très très belle, que j'aimais beaucoup, je l'avais inscrite sur ma carte d'ordination, une petite image d'ordination, le jour de mon ordination, le 29 juin 1979. Et Saint Pédis avait l'habitude de dire que mes prêtres soient des lions en chair, des agneaux au confessionnal et des anges à l'autel. Le lion, l'agneau, l'ange. C'est toute la vie du prêtre. Toutes les fonctions du prêtre sont expliquées ainsi. D'abord, le prêtre doit être un lion en chair pour prêcher la vérité. C'est la chair de vérité. Et là, c'est le rôle de magistère. Le rôle de magistère qui est absolument, absolument, absolument fondamental. Donc, c'est le lion en chair, c'est la nécessité d'enseigner le magistère de l'Église, d'enseigner aussi le catéchisme, et c'est la vertu de foi qui est représentée par là. Et le prêtre doit évidemment faire très attention de ne pas chercher à se prêcher lui-même, parce que là, c'est la mort du prêtre, la mort des âmes. Donc, encore une fois, le prêtre étant le transparent du Christ, le rôle du prêtre va justement consister, par sa prédication, d'élever les âmes vers le bon Dieu. Donc, prêcher cette parole de vérité pour que ce magistère puisse être transmis. Et c'est la raison pour laquelle le prêtre doit faire très attention justement d'affirmer la vérité. C'est un conseil que Mgr Lefebvre nous a donné, je me rappelle justement mon ordination, un conseil qu'il avait donné au prêtre de mon année et qu'il donnait généralement en disant, vous savez, par les temps qui courent, il n'est pas très nécessaire d'expliquer la foi. Mais beaucoup plus, disait-il, de l'affirmer. Ce dont les gens ont le plus besoin, c'est d'entendre l'affirmation de la foi catholique. Après, ça n'empêche pas d'étudier pour mieux connaître pour mieux comprendre, et mieux comprendre pour mieux aimer. Mais en soi, strictement parlant, le rôle du prêtre, c'est d'abord d'affirmer la foi catholique. Que les gens entendent la parole de vérité. C'est pour ça qu'on appelle la chair à prêcher dans les églises, la chair de vérité. Donc le prêtre doit être comme un lion en chair, disait Saint Pie X. Deuxième expression de Saint Pie X, le prêtre doit être un agneau confessionnal. L'agneau confessionnal, là, c'est le gouvernement des âmes. Le gouvernement des âmes par la confession, c'est toute la vertu, la vertu d'espérance. Donc, au confessionnal, il faut vraiment que les fidèles puissent trouver la charité incarnée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Sacré-Cœur qui s'ouvre sur la croix représente le confessionnal. Le confessionnal, c'est la montée au Sacré-Cœur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours ouvert sur la croix comme un lieu de refuge pour que les âmes, justement, puissent trouver là le réconfort, les soins spirituellement parlant et la chaleur dont ils ont besoin pour retrouver, justement, un petit peu de force pour continuer à porter leur croix personnelle jusqu'à la fin de leur vie. Il est fondamental de comprendre toutes ces choses-là, afin justement que la contrition de nos péchés devienne une contrition parfaite. C'est la raison pour laquelle Saint Thomas d'Aquin lui-même enseigne que si quelqu'un se présente au confessionnal avec une contrition imparfaite, c'est-à-dire il regrette ses péchés simplement par peur de l'enfer, le simple fait qu'il se confesse va transformer dans son cœur cette contrition imparfaite en une contrition parfaite. Ce que disait saint Thomas. Attritum fit contritum per sacramentum. L'attrition de la contrition imparfaite est transformée en contrition parfaite par le sacrement de pénitence. Ne pas considérer aussi le sacrement de pénitence, ça c'est une grosse erreur surtout chez les jeunes. Ils considèrent le sacrement de pénitence comme une triste nécessité. Ils considèrent uniquement le sacrement de pénitence comme un sacrement curatif, pour soigner quelqu'un qui est malade. Ils ne comprennent pas que le sacrement de pénitence est aussi et d'abord peut-être un sacrement préventif. Ce n'est pas simplement de se confesser quand on a le malheur de commettre une faute grave, il faut se confesser aussi pour prévenir les fautes graves. C'est pour ça qu'il est parfois bon, dans certains cas, d'accuser au confessionnal ces tentations. Même si les tentations, on n'y a pas cédé. Une tentation n'est pas un péché, donc on n'a pas cédé, accepté la tentation, il n'y a pas de péché. Mais le simple fait qu'on avoue nos péchés au confessionnal, déjà c'est un moyen, si vous voulez, d'augmenter, de préparer, d'ouvrir davantage la porte de notre âme pour que on puisse lentement utiliser la confession, pas simplement par obligation, mais utiliser la confession, je dirais, par amour pour le bon Dieu. Troisième expression de Saint Pédis, il disait que le prêtre doit être un ange à l'autel. Donc le lion au confessionnal, c'est la foi, l'agneau au confessionnal, c'est l'espérance, et l'ange à l'autel, évidemment, c'est la charité, puisque là, c'est la fonction ministérielle. Ministérielle, c'est-à-dire la fonction de sanctification. Sanctification. Je me rappelle quand j'étais jeune, avant, donc je suis né avant Vatican II, mais je me rappelle, j'avais été choqué déjà par tous ces. À l'époque, tous les prêtres disaient la messe traditionnelle, parce que la messe traditionnelle est arrivée qu'en 69, après Vatican II. Mais ça m'avait déjà profondément choqué quand j'assistais à ces messes traditionnelles, quand j'étais gamin, de voir la façon dont la plupart des prêtres célébraient la messe. J'avais l'impression qu'ils faisaient la course, plus court possible. Et le prêtre, en agissant ainsi, ne se rendait pas compte qu'il allait rabaisser, si vous voulez, la dignité de la messe. D'où l'importance de célébrer la messe avec dignité, avec un grand respect, un grand amour, parce que justement, le prêtre doit être l'ange à l'autel. Donc, si le prêtre est ange à l'autel, agneau confessionnal et lion en chair, à ce moment-là, il va pouvoir protéger les fidèles de tous les dangers. On parle de l'évangile d'aujourd'hui, je ne vais pas trop en parler parce que ce serait trop long, mais notre Seigneur Jésus-Christ, au début de cet évangile, nous parle des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et au-dedans sont des loups ravisseurs. Il nous dit qu'on reconnaîtra les arbres aux fruits. Donc il faut protéger nos fidèles des faux prophètes, de ceux qui ont qui sont des loups recouverts de peau de brebis, et protéger aussi les fidèles des mauvais fruits. Il y a deux sortes de mauvais fruits. Il y a des mauvais fruits qui sont apparemment mauvais, tout le monde peut voir qu'ils sont mauvais, ils sont tout pourris. Puis il y a des mauvais fruits qui sont encore beaucoup plus dangereux, c'est des mauvais fruits qui apparaissent encore bons à l'extérieur, mais qui sont tout pourris à l'intérieur, seulement la pourriture ne se voit pas de l'extérieur. C'est un exemple que je donne souvent. Si vous avez deux fruits devant vous, un fruit tout pourri, qui est manifestement pourri, un fruit qui est extérieurement encore très beau et tout pourri de l'intérieur, c'est le deuxième fruit qui est évidemment beaucoup plus dangereux. C'est une autre comparaison que je donne toujours quand je prêche les exercices Saint-Ignace, au début des exercices, quand j'explique les règles de discernement des esprits. C'est un peu pareil avec les prêtres. Hein? Imaginez un prêtre moderniste qui se promène en short et en t-shirt et qui joue de la guitare pour convertir tous les gens dans les boîtes de nuit d'Albi. Celui-là, il n'est pas très dangereux pour nos fidèles. Par contre, un prêtre qui serait en soutane, en col romain, en ceinture ecclésiastique et qui prêcherait l'obéissance aveugle à Bergoglio, celui-là est beaucoup plus dangereux. Oui, donc il faut demander justement ces grâces qui passent par le prêtre. Malgré toutes les faiblesses naturelles du prêtre, le prêtre est un homme comme tout le monde. Hein. J'aime beaucoup l'expression de Monseigneur Williamson qui avait fait un véritable scandale le jour où il l'avait sorti en pleine devant des milliers de personnes à une messe d'ordination. Il avait dit le prêtre, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il avait dit le prêtre est un âne avec une étole. C'était assez mal passé chez les ecclésiastiques. Un âne avec une étole. Âne. Pourquoi? Parce qu'il est homme, étole, parce qu'il a un pouvoir divin. Donc c'est l'âne, si vous voulez, qui porte sur son dos des reliques. Et j'aime bien l'expression, un âne avec une étole. Donc chez le prêtre, il y a encore une partie humaine. Le prêtre n'est pas un ange. Il doit agir comme un ange, mais il n'est pas un ange. Vous le savez très bien avec moi. Hein? Mais il porte une étole parce qu'il a un pouvoir divin. Donc il faut vraiment demander, mes bien chers frères, demander à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses-là. S'il y en a une qui avait bien compris le sacerdoce éternel de son divin Fils, c'est bien la Très Sainte Vierge Marie. Donc suppliez la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à avoir un amour débordant pour le sacerdoce. Le sacerdoce, si vous voulez, est comme la racine, mais cette racine va donner un arbre, va donner des fleurs et des fruits. Et il faut justement utiliser ce sacerdoce qui est la connexion, si vous voulez, c'est littéralement le tuyau d'arrosage qui réunit, qui va rattacher qui va être rattaché au robinet. Le robinet, c'est le robinet de la grâce, c'est le bon Dieu lui-même. Il va utiliser le prêtre comme un instrument, malgré les faiblesses et défaillances du prêtre. Faut pas apprendre, non, faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, si vous voulez, de comprendre de travers ces paraboles, ces images des pères, dire que le prêtre est parfait. Vous savez très bien que le prêtre n'est pas parfait, il a ses défauts comme tout le monde, il a besoin de se confesser comme tout le monde. Tout le monde, même les autorités, et surtout les autorités, doivent avoir l'obligation de se confesser. Pour rien qu'à Rome, il y a un vieux cardinal qui avait comme fonction, il était confesseur du pape. Le pape avait en général choisi un vieux cardinal pour le confesser. C'est pas tout ce qu'il faisait parce qu'il était très âgé et il confessait le pape. Tout le monde a besoin de se confesser, le pape y compris, quand il y en a un. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses, et surtout à les mettre en pratique, et d'augmenter en nous d'une part, l'amour pour le sacerdoce et en même temps la reconnaissance pour le bon Dieu qui nous a donné le sacerdoce. Rappelez-vous, une fois le Saint-Curé d'Ars avait reçu un protestant, un autre protestant à Ars. Et puis, ses amis lui présentent ce protestant. Il prend les mains du protestant comme ça. Il dit, pauvre protestant, vous n'avez ni la messe, ni la Sainte Vierge, ni la confession, ni le sacerdoce. Et Saint-Curé avait compris toutes ces choses-là. Donc demandons à la Sainte Vierge la grâce de comprendre toutes ces choses et les transmettre à ceux dont nous avons la charge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.